Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog.
Bonjour à tous, deuxième émission de la saison pour le livre de Frog sur Radio Grenouille et nous sommes très heureuses avec Elodie d'y recevoir Audrey Coussy, traductrice, enseignante et doctorante en études anglophones et traductologie à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Pendant une heure, nous allons discuter avec elle de l'un de ses livres préférés, à savoir Sequoia Island de l'américain David Vann, un roman poignant qui nous transporte dans les terres sauvages et glaciales de l'Alaska, dont nous découvrons tout de suite, pour bien commencer cette émission, un extrait choisi et lu par notre invité.
Il resta près de son père lors de ce premier voyage. Il s'inquiétait qu'aucun d'eux n'ait emporté de fusil. Il guettait une trace d'ours, espérant à moitié en voir une. Il devait constamment se raisonner afin de se rappeler qu'il cherchait du bois. « On va devoir abattre un arbre, » fit son père. « On n'en trouvera pas d'assez bien par terre. La pourriture s'installe trop vite. » « Alors, est-ce que ça commence à te revenir? Tu te rappelles Ketchikan ?»« Ouais. C'est pas comme Fairbanks par ici. Tout dégage une sensation différente. Je crois que j'ai vécu trop longtemps au mauvais endroit. J'avais oublié à quel point j'aime être près de l'eau, à quel point j'aime voir les montagnes se dresser comme ça, et sentir l'odeur de la forêt aussi. » À Fairbanks, il fait sec, et les montagnes ne sont que des collines. Puis les arbres se ressemblent tous. Il n'y a que des bouleaux et des épicéas à perte de vue. Quand je regardais par la fenêtre, j'aurais voulu voir d'autres espèces d'arbres. Je sais pas à quoi c'est dû. Je me suis jamais sentie chez moi toutes ces années. Je me suis jamais sentie à ma place nulle part. Quelque chose me manquait. Mais j'ai le sentiment qu'être ici avec toi va tout arranger. Tu vois ce que je veux dire? Son père le regardait, mais Roy ne savait pas comment discuter avec lui sur ce ton. « Ouais, » fit-il. Mais il ne voyait pas. Il ne comprenait pas ce que racontait son père, ni pourquoi il parlait ainsi. Et si les choses ne se passaient pas comme son père disait qu'elles allaient se passer, que ferait-il alors? « Ça va ?» demanda le père en passant son bras sur les épaules de son fils. « On sera bien ici, ok? Je ne faisais que parler, rien de plus, ok ?» Roy acquiesça et se dégagea de l'étreinte paternelle pour continuer à chercher du bois. Ils rapportèrent à la cabane le peu qu'ils avaient trouvé, ce qui ne faisait pas grand-chose, et son père sortit la hache. Mais il observa le ciel et changea d'avis. « Tu sais quoi? L'après-midi est déjà bien avancé. On doit manger et installer nos matelas et le reste. Alors ça peut peut-être attendre demain. » Ils prirent le bois sec rangé dans le coffre derrière la cabane, découvrant au passage l'existence d'une porte d'accès qui donnait directement à l'intérieur, et en utilisèrent une partie pour allumer le poêle. « Il nous servira aussi de chauffage, » dit son père. « Il va nous garder bien au chaud et on pourra le laisser brûler doucement toute la nuit si on ferme les bouches d'aération. » « On en aura bien besoin, » fit Roy. Même s'il savait que cela n'aurait rien à voir avec Fairbanks. La température descendrait rarement en dessous de moins 20 degrés. C'était ce que son père avait promis à tout le monde. Il s'était assis dans leur salon, les coudes sur les genoux, et il avait expliqué comme tout serait facile et sans danger. La mère de Roy avait fait remarquer que les prédictions de son père s'étaient souvent révélées fausses. Quand il avait protesté, elle avait parlé de ses projets de pêche commerciale, de son investissement dans une quincaillerie, de ses divers cabinets de dentistes. Elle n'avait pas mentionné ses deux mariages, mais c'était clairement sous-entendu. Son père avait ignoré tout cela et répondu que les températures se maintiendraient la plupart du temps au-dessus de zéro.
Le livre de Frog.
Bonjour Audrey Coussy.
Bonjour.
Salut Erika.
Bonjour.
Alors bienvenue au livre de Frog. On est ravis de vous accueillir. Alors, comme le disait Erika, vous êtes actuellement enseignante au département d'anglais à l'université d'Aix-Marseille. Vous vous apprêtez à soutenir votre thèse sur la traduction de la littérature jeunesse à Paris 3. Et puis vous êtes également traductrice, notamment pour les éditions Asphalte. On avait d'ailleurs parlé de ces éditions quand on avait reçu Cédric Fabre. On avait parlé de Marseille Noire, publié chez Asphalte. Et vous avez notamment traduit Block Party, un roman à 10 étages de Richard Millward, donc publié par Asphalte en 2013. Alors vous venez de nous lire un extrait d'un livre qui vous est cher, Sequoia Island de David Vann, un écrivain américain né en 66 sur l'île d'Adak en Alaska. Alors un livre qui nous a secoués toutes les deux, je crois qu'on est raccord pour ça. Alors je vais le présenter brièvement, mais comme à la dernière émission, on ne va pas spoiler Sequoia Island. On y tient beaucoup parce que chaque lecteur mérite vraiment de faire cette expérience littéraire assez brute de décoffrage. Alors, ce livre a une histoire assez particulière. David Vann a écrit ce livre quand il avait une vingtaine d'années. Et puis, il a mis des années pour trouver un éditeur aux États-Unis parce que tout le monde trouvait ce livre trop noir. Et Vann a fini par l'envoyer à un concours de nouvelles qu'il a remporté. Et le prix était une petite publication. Donc, nous sommes alors à la fin des années 90, mais le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors, le livre va être republié aux États-Unis en 2009. Mais surtout, il va être publié dans sa traduction française en 2010 aux éditions Gellmeister. Et là, en revanche, le succès est immédiat puisque Sequoia Island va remporter le prix Médicis étranger et va se vendre à plus de 200 000 exemplaires. Et ce succès est dû au bouche à oreille, je crois qu'il faut bien le préciser, et au soutien des libraires indépendants français qui ont fait vraiment un travail formidable. David Vann le reconnaît lui-même souvent quand il parle de son livre. Et puis, il a publié, bien sûr, d'autres livres depuis Sequoia Island et il est traduit dans de nombreuses langues aujourd'hui. Alors, que nous raconte Sequoia Island ? Un père, Jim, qui est assez perdu dans sa vie et qui cherche à prendre un nouveau départ, propose à son fils Roy, qui a 13 ans et qu'il connaît peu, d'aller vivre pendant un an dans une île sauvage de l'Alaska, Sequoia Island, et de vivre comme des pionniers, vivre dans une cabane, chasser, pêcher, couper du bois pour se chauffer, et puis explorer cette île très isolée, avec ses falaises escarpées, ses forêts humides, avec ses ours, avec ses pygargues. Et Roy décide donc de s'embarquer avec son père et très rapidement, ce séjour va virer au cauchemar. L'écriture de David Vann est d'une redoutable efficacité pour insuffler une tension dramatique très forte dans un cadre narratif, je pense qu'on va en reparler, très épuré. Alors notre première question rituelle qu'on pense simple, mais peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça, pourquoi ce livre, Audrey Coussy ?
Je crois que ça a été une de mes plus grande claque littéraire, ce livre-là. J'en ai rarement eu comme ça dans ma vie. Je pense à L'étranger d'Albert Camus, dans cet inconfort de la lecture, justement. Quand je l'ai découvert, en fait, il n'avait pas été encore traduit en français. Je l'avais écouté parler à Book in Bar, une librairie anglophone à Aix-en-Provence. Et son roman était en cours de traduction. Et donc, j'ai découvert ce roman, qui à la base est une collection de nouvelles. Et ça a été une claque, c'est ça. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et j'ai constaté que c'était l'expérience habituelle des gens avec ce livre-là, qui est vraiment très viscéral. Pour moi, c'est quelque chose d'une écriture viscérale, des thématiques très simples et pourtant fondamentale, qui rappelle beaucoup les récits grecs aussi, tout ce côté des thématiques basiques, de l'essence, de l'être.
Un père, son fils,
c'est ça.
Oui, oui. En effet.
Et c'est ça qui m'a marqué, c'est avec peu, David Vann fait énormément.
Alors, c'est vrai que ce roman met en scène un thème, un sujet qui revient souvent et peut-être même de plus en plus dans nos sociétés extrêmement urbanisées, qui est celui du retour à la nature. Avec cette idée au départ d'un retour à la nature qu'il serait quelque part pour l'homme libérateur et salvateur. C'est un peu, voire même beaucoup comme ça que Jim, le père, envisage cette expérience d'un an loin du monde civilisé. Et l'extrait que vous avez choisi, qui se situe donc au début du roman, le montre d'ailleurs très bien quand le personnage, donc quand Jim dit à son fils « Je ne me suis jamais senti chez moi toutes ces années, je ne me suis jamais senti à ma place nulle part, quelque chose me manquait, mais j'ai le sentiment qu'être ici avec toi va tout t'arranger. » Donc on a vraiment cette image d'un personnage qui échoue dans la société, société, qui n'y trouve pas sa place et qui se dit « bon, en faisant de très gros raccourcis, finalement, la société et moi, c'est pas très compatible, donc je vais revenir à l'essentiel, la nature sauvage, la liberté, les grandes étendues, et là, je suis sûre, tout va s'arranger. » Sauf que, en fait, dans le livre de David Vann, on se rend bien compte très rapidement que non, ça ne marche pas comme ça, et l'auteur y remet en question, dès les premières pages du roman, cette image d'une nature mythifiée et idéalisée qui servirait de refuge et d'espace libérateur à l'homme insatisfait par la société. Et finalement, et on commence déjà à le sentir dans l'extrait que vous avez lu, l'auteur, il nous dépeint une nature extrêmement rude et violente qui, quelque part, déçoit toujours et toujours plus les attentes idéalisées du père, qui d'ailleurs, ce père, nous fait souvent sourire parce qu'on voit bien qu'en fait, il est absolument pas préparé à ce dans quoi il s'est embarqué. Donc, ma question, est-ce que vous avez été justement sensible à cette image et à cette importance de la nature comme espace violent et même hostile, qui est somme toute assez éloigné, comme je le disais, de cette idéalisation d'un retour aux origines, loin de toute civilisation, qu'on aurait tendance à voir et même souvent à nous vendre, il faut bien le dire, assez souvent aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est très, très, très actuel, cette espèce de mythe du retour aux sources, la nature qui va être bienveillante et qui va nous permettre de mieux nous connaître. Et ce que j'ai aimé avec David Vann, c'est... Alors, c'est pas tant qu'il crée une nature hostile, ça, il le dit même lui-même en interview, c'est une nature neutre. Et en fait, l'environnement est là juste pour révéler... l'inconscient du personnage. En fait, il se positionne là en espace neutre, en canevas neutre. Et ce sont les réactions du personnage qui vont être finalement beaucoup plus parlantes et beaucoup plus intéressantes. On remarque à certains moments du roman, la nature va être de leur côté. Ils vont dire, oui, on a eu de la chance, là, il aurait pu neiger, mais finalement, il fait bon, on va s'en sortir. Et puis, il y a d'autres occasions où on se dit, mais jamais ils vont survivre, c'est pas possible. Il y a des conditions climatiques impossibles. Il y a un ours qui, dès les premières pages, rentre dans la cabane et ça cache tout. Et on part vraiment sur des choses... C'est une mini-apocalypse à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, c'est pas nécessairement hostile. C'est que ça fait ressortir le fait que le père est pas très bien préparé. Il a des bonnes bases, et le fils aussi, mais il s'attend pas du tout à toutes les complications. Et ça, c'est apparent dès le début. Le fait que, je crois, oui, Roy dit au début, donc Roy le fils, dit qu'il s'aperçoit que son père ne sait pas grand-chose. Et au début, il trouve ça rassurant parce qu'il pense que ça les met sur un pied d'égalité. Et je crois, le paragraphe d'après, non, en fait, c'est pas rassurant du tout. Il sent bien que ce n'est pas normal. Le père est censé quand même être là pour prendre en charge son fils et prendre en charge aussi ce voyage, ce séjour d'un an. Qui est le désir du père à la base, qui n'est pas du tout le désir du fils.
Et est-ce qu'il ne vous a pas un peu fait rire ce... Enfin, moi, je trouvais que dans quand même, voilà, la force du texte poignante, vraiment, il y avait des passages où des fois, on se disait, non mais quand même, tu ne peux pas partir au fin fond de l'Alaska. Et puis, j'ai vu que dans un reportage, on faisait comme ça, on va essayer. Donc, quelque part, il y a aussi ce côté un peu... comme je disais, on nous dit aujourd'hui, allez, on va dans la nature. Voilà, ils ont un côté... Non, vous n'avez pas trouvé un côté un peu...
Si, il y a un petit côté comique, à certains moments. Justement, entre ce côté, enfin, l'idéalisation qui est faite de la nature. On voit très souvent Roy, mais beaucoup plus le père, Jim, penser à « Oh, je devrais vivre cette expérience de cette façon, comme on me l'a vendu dans les films, comme on me l'a vendu comme ça. » Et la réalité est tout autre. La réalité est très... maladroite. Alors, on arrive à en rire parfois, mais je trouve que les trois quarts du temps, c'est...
Ouais. En sourire.
En sourire. Sinon, c'est extrêmement frustrant à lire. C'est affreux.
Oui, et puis c'est inquiétant aussi, parce que ces maladresses du père, elles commencent dès le début. Donc on se dit, mon Dieu, que c'est mal parti tout ça. Et on ne veut pas croire à la première maladresse, mais dès qu'arrive la seconde, la troisième, etc., on se dit, mon Dieu, ça va peut-être mal finir. Alors, au moment de chercher un document sonore à vous faire écouter, à faire écouter à nos auditeurs, il s'avère que, eh bien, on a pensé au même film, toutes les deux, avec Erika. On a pensé à Into the Wild. donc, ce film réalisé par Sean Penn en 2007 et qui raconte l'histoire vraie de Christopher McCandless, donc un brillant étudiant fraîchement diplômé qui... rejette les principes de la société moderne capitaliste et qui décide de partir, de se faire la malle et de partir dans un périple dans la nature qui le mène d'ailleurs jusqu'à Fairbanks. On en parlait, on retrouve l'Alaska que connaît si bien David Vann. On retrouve un personnage qui décide de rompre et de partir en quête d'une paix intérieure, on va dire. Et donc on voulait passer un extrait de la magnifique bande originale composée par Eddie Vedder et Michael Brook. Donc on va écouter tout de suite Guaranteed et on en reparle après.
Cup I silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Écouterai encore longtemps, je crois. Vous avez eu un sourire d'évidence quand j'ai lancé notre extrait sonore. Vous, le livre vous avait fait penser à Into the Wild, ou là, maintenant, ça vous paraît, le lien vous paraît évident ou,
Oui, oui. Même à l'époque, le lien m'avait paru évident. C'était un film que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas lu le livre, par contre, mais je trouve que c'est intéressant à comparer avec l'œuvre de David Vann parce que il y a un traitement différent d'un même sujet. Un personnage qui va dans la nature pour se confronter à lui-même, pour se redécouvrir, et le traitement de Sean Penn est pas du tout ironique, pas du tout dans cet aspect-là. Il est avec son personnage. Bon, le personnage de Into the Wild est beaucoup plus sympathique que oui. le personnage du père dans Suckman Island, mais c'est beaucoup plus mordant et il n'y a pas les mêmes... on s'est désenchanté tout de suite, il n'y a plus d'illusions dès le début. chez Yvonne.
Alors, il y avait, moi, un parallèle sur lequel je voulais insister entre le livre et le film. Donc, on a, c'est vrai, un peu la même histoire, les deux protagonistes, qui, au final, vivent une certaine déception quand même. Il y a quelque chose de l'échec dans ces deux histoires. Et la fin d'Into the Wild est terrible. Et terrible, c'est vraiment un adjectif qui revient très bien à Sequoia Island. Ce livre est vraiment terrible. Puisqu'on voit donc dans Into the Wild, Christopher comprendre que, il me semble, il ne s'agissait pas tant de fuir une société capitaliste, etc. La véritable question, et il s'en rend compte à la fin dans une scène où d'ailleurs il pleure en écrivant une phrase, la véritable question c'était peut-être celle de la solitude ou de son envers, c'est-à-dire l'amour, le partage. On le voit écrire « Happiness only real when shared », donc le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Le livre d'ailleurs adapté, c'est « Voyage au bout de la solitude ». Est-ce que vous pensez que cette question de la solitude éclaire aussi Sequoia Island, qui a un lien entre les deux ?
Oui, énormément. Finalement, le père a une révélation aussi quand il accepte enfin de se confronter aux illusions, à ses propres illusions, et à l'espèce d'image idéalisée qu'il avait de la nature. Il le dit, je ne suis pas fait pour la solitude, et puis j'aime mon confort, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis là ? Et c'est quelqu'un qu'on sent, enfin, on sent Jim dès le début. Pourtant, on a le point de vue du fils, c'est Roy qui traite l'histoire. On sent que c'est quelqu'un d'immensément seul pour qu'il insiste à ce point, pour que son fils l'accompagne dans ce périple-là. Et on sent cette solitude s'immiscer dans l'être de son fils, chez Roy, qui lui, dès le début, est en manque de sa mère, de sa sœur, de ses amis, ça il le répète plusieurs fois. Et il y a quelque chose d'être seul à deux qui est affreusement de l'ordre du pathos, c'est pathétique dès le début.
Oui, d'ailleurs c'est bien, vous faites une transition tout à fait naturelle sur la suite de ce qu'on avait préparé, et c'est justement que voilà, ce qui était encore plus terrible, ce qu'on trouvait, c'est que à l'origine, dans l'esprit du père, tout ce qui pourrait annuler le malaise qu'il habite et qu'il essaie de fuir en venant sur l'île, finit par amplifier toujours plus ce sentiment de solitude. Et donc, on a d'abord cette image de l'île qui, à l'origine, représente un peu tous les espoirs. C'est un peu une utopie, cette île. Et puis, au final, c'est complètement l'inverse. Ça se révèle le lieu de la solitude, de l'enfermement et même de l'aliénation. Et puis, surtout, et c'est ce que vous disiez très justement, je pense, moi aussi, c'est que ce qui redouble dramatiquement, pathétiquement, cette solitude, c'est cette relation entre le père Jim et le fils Roy, qui, seuls sur l'île, tous les deux ensemble, n'arrivent jamais vraiment à se rencontrer et n'arrivent pas à communiquer ou pas bien. Et c'est peut-être là aussi la grande différence avec le film Into the Wild, qui nous présente finalement simplement, mais je le dis pas du tout dans un sens péjoratif, ça nous présente simplement une confrontation d'un homme avec la nature. Et dans le roman de Van, il y a bien sûr cette idée de survie, cette idée de confrontation aux forces de la nature dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais l'œuvre se construit sur la combinaison non pas de deux, mais de trois éléments essentiels qui sont le père, le fils et la nature. C'est-à-dire, il y a vraiment cette triade essentielle dans le livre. Et au final, l'intrigue ne dépasse jamais guère plus que ces trois éléments. Et on a donc une construction avec un espace, un temps et un nombre de personnages extrêmement limités. Vous le disiez aussi au début de l'émission. Et c'est bien sûr quelque chose qui est voulu par David Van, et il a lui-même expliqué pourquoi dans une interview donnée au site Rue 89, dont on vous propose d'écouter un extrait avant d'en reparler juste après.
J'essaie vraiment de garder une unité dramatique très forte dans mes romans. Tout ça, c'est l'héritage de la tragédie grecque. Et si j'essaie de faire ça, c'est parce que j'accorde beaucoup d'importance à la pression que je mets sur mes personnages. Si on prend peu de personnages dans un temps assez court, avec un espace limité, on a beaucoup plus de chances d'arriver à une tension situation dramatique importante. C'est comme si on était sur scène. Les personnages n'ont aucun moyen de s'échapper. Et on va, en mettant cette pression sur leurs épaules, les pousser à la rupture. Et c'est par cette rupture que les personnages vont réellement se révéler.
Alors, on vient de l'entendre, dans cet extrait, David Vann nous parle de pression, d'absence d'échappatoire, de rupture, de tension dramatique. Et question très simple, donc, que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, pour vous, le pari est réussi?
Complètement. Et complètement. C'est impressionnant de voir à quel point il arrive à resserrer l'étau sur un espace qui était déjà très très restreint. Et pour reparler de cette solitude-là, elle ressort énormément une fois que la survie n'est plus à assurer. Et ça, Jim se fait la réflexion à un moment. Le début du séjour se passe quand c'est encore l'été. Donc, ils sont affairés avec son fils à mettre de la nourriture de côté, du bois, etc. Et une fois l'hiver venu, une fois qu'ils se retrouvent en tête à tête, qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire que pour Roy préparer ses cours, parce qu'il est obligé de travailler aussi pendant un an. Et Jim, qui est censé lire, on ne sait pas trop ce qu'il est censé faire, lui. Ils se retrouvent tous les deux comme ça, avec beaucoup de temps devant eux, et aucune communication qui se fait. Ils passent complètement à côté l'un de l'autre dans un espace, dans l'espace de la cabane, qui est une seule pièce, qui est aussi très petite. Donc oui, l'étau ne fait que se resserrer, et on se dit, mais à un moment donné, il faut bien que ça explose, que ça craque. Et il y a un tournant dans le roman où, oui, il y a une catharsis inattendue, qui a d'ailleurs été inattendue pour l'auteur lui aussi. Il ne s'y attendait pas d'écrire ça. Et tout change après ça. Il y a une ouverture qui se fait, mais c'est une ouverture très déstabilisante et qui ramène encore à une autre forme de solitude.
Oui, c'est vrai qu'il y a presque un paradoxe entre le fait qu'ils sont assez désœuvrés, finalement, et que c'est ce désœuvrement qui est presque le moteur qui va amener à cette explosion, à cette rupture. Et ça, c'est très... En effet, c'est très fort. Et je voulais vous interroger un peu sur la figure du père, quand même, qui... peut-être est ce qui m'a le plus secoué, moi, dans ma lecture. J'ai trouvé que David Vann était vraiment très fort pour insuffler un malaise en venant chercher une mémoire chez le lecteur, la mémoire de l'enfant qu'on a été et de la fragilité de l'enfant qu'on a été. Il le fait donc en construisant un père d'une façon très singulière, c'est-à-dire que c'est une figure assez négative, mais ça, finalement, on peut le retrouver ailleurs dans la littérature ou au cinéma. Il prend le parti, là, en plus de nous dépeindre un personnage assez négatif, de le dépeindre dans une fragilité impressionnante quand on pense à ce qu'un père doit être pour son fils qui n'a que 13 ans. Puisque autant à la première page, Jim raconte à son fils comment s'est fait le monde, donc là, il est vraiment à sa place, mais ça ne dure que les deux premières pages, puisque ensuite, l'extrait que vous avez lu le montrait très bien. Il y a la fragilité qui prend le pas sur tout ça. Souvent, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Souvent, il dit « j'ai merdé ». Ailleurs, il dit « je ne sais pas si je vais tenir le coup ». Enfin, qu'un père dise ça à son fils de 13 ans, c'est quand même extraordinaire. Quand Roy demande à un moment « on va où ?», il répond pas tout de suite, le père. Parce qu'il ne sait pas, en fait. Il ne sait pas très bien. Il ne sait jamais très bien, en fait. Est-ce que, finalement, les rôles père-fils ne sont pas inversé plutôt ici. Est-ce que vous avez été sensible à ce choix de David Vann?
Oui, c'est quelque chose qui est très frappant et qui, pour moi, participe de l'inconfort de la lecture.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on sent, et puis même Roy le dit aussi, il le formule, il dit, il a l'impression que s'il part, s'il jette l'éponge, parce qu'il est de plus en plus tenté de dire à son père, bon, j'arrête le voyage et puis je repars. Il sait que s'il part, il signe l'arrêt de mort de son père. Parce que son père, dans cette fragilité incroyable, on sent qu'il est toujours à deux doigts de se suicider. Il y a une scène aussi au début où ils sont au bord d'un précipice. Et là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, le père saute. Et après, il ne dit rien à son fils, comme si en fait il avait glissé, mais son fils sait très bien qu'il a sauté. Le père sait qu'il a sauté lui-même aussi, et se retrouve donc à le récupérer. Et puis bon, bon an mal an, il arrive à se retaper. Mais ça donne une réflexion de Roy que je trouve magnifique et qui résume pour moi la façon dont Van traite son sujet. Roy dit « Il se demanda si un corps pouvait être mort, mais respirait encore. » Et cette pensée était si effrayante qu'il se leva pour préparer le petit déjeuner. Il y a quelque chose, voilà. Le survivant, survivre, pas vraiment vivre, mais survivre, tout en n'étant pas vraiment vivant, et se distraire avec la question du quotidien, de faire quelque chose de très basique. On se lève, on va faire le petit déjeuner. Et c'est exactement le fonctionnement que son père lui a appris. Et il le poursuit de cette manière-là. Et c'est très inconfortable de voir le fils jouer le rôle du père. Oui. Vraiment prendre en charge totalement son père. Et on a envie de secouer c'est Jim. C'est affreux.
Ah oui, moi, c'est ce que je me disais. On a vraiment envie de lui dire, non mais c'est toi le père, you. Non, mais c'est vraiment dérangeant dans cette idée d'inconfort. C'est vraiment perturbant, cette figure du père.
Oui, avec des images qui sont quand même très fortes. C'est-à-dire, par exemple, que Roy, toutes les nuits, entend son père pleurer. Ça, c'est des choses qui touchent à nos propres mémoires, finalement. C'est des choses rares dans la vie d'un enfant. En général, on va dire, on a toujours la figure du père très fort. Et là, ça ne tient pas, il ne tient pas le coup dès le début. Quoi.
C'est affreux, ça c'est le mot que je répète pour ce livre, c'est vrai, c'est affreux. Mais quand il commence, dès la première nuit, je crois, il se met à pleurer et Roy est tellement désemparé qu'il ne sait pas comment réagir. Donc il fait style qu'il dort encore. Et puis au fur et à mesure, il voit bien que son père finalement s'adresse à lui, lui demande est-ce que tu es réveillé, qu'est-ce que tu penses de ça. Et le lendemain, Roy est censé faire comme si rien ne s'était passé. Donc oublier cette figure du père complètement fragilisée, et il commence à rentrer dans une sorte de schizophrénie.
Oui.
Et là, le fils se perd totalement, alors que le père s'autorise à être pleinement lui.
S'appuie sur son fils, énormément. Ça.
Il est un peu égoïste, des fois, on a l'impression.
Oh, il est totalement égoïste, tout le temps.
C'est ça. Je me le disais en lisant, c'est fou quand même à quel point ce père peut être égoïste jusqu'avec son fils. Dès le départ. Bref, dans la même interview dont on a écouté un extrait juste avant, David Van, il affirme un peu plus loin, une autre chose, c'est que si je parle de ces relations primaires et que j'utilise l'unité dramatique, c'est parce que ça me permet de laisser s'exprimer mon inconscient. Alors, quand on connaît un petit peu la biographie de David Van, on est obligé de s'arrêter et de revenir sur ses propos. Puisque, d'abord, le livre est dédié à son père, James Elwood Van. Donc, pour un livre qui traite d'une relation père-fils, ça met un peu la puce à l'oreille. Et ce n'est d'autant plus pas un hasard que son père s'est suicidé alors que l'auteur, donc David Van, n'avait que 13 ans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il s'est suicidé, le père de David Van, 15 jours après que son fils lui a refusé de partir vivre un an en Alaska avec lui. Bon, insomnie, honte, culpabilité pendant de nombreuses années que raconte David Van assez ouvertement. Et pour finir, un roman dans lequel un fils de 13 ans accepte de partir avec son père sur une île inhabitée car il le sent faible et suicidaire. Les parallèles sont un peu trop nombreux et un peu trop clairs pour qu'on ne puisse pas voir dans ce roman, sans le réduire à cela, attention non plus, mais une sorte de rédemption ou de catharsis, vous avez déjà utilisé ce mot un peu plus tôt, à ce drame personnel qu'a vécu l'auteur. Et d'ailleurs, à un moment dans le roman, on peut lire cela. Donc, il voulait juste trouver quelqu'un à qui raconter toute son histoire afin de pouvoir lui-même la comprendre. Et du coup, les propos de David Van, plus cette citation, m'ont fait penser à une autre citation
d'un auteur très connu et récemment disparu, qui est Gabriel García Márquez, qui affirmait un petit peu dans cette continuité, donc puisqu'Elodie l'a dit en anglais, je vais la dire en espagnol, ça me fait plaisir. Donc, « El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. » En français, « L'écrivain écrit son livre pour s'expliquer à lui-même ce qui ne peut pas s'expliquer. » Et donc finalement, est-ce que pour vous, vous pensez que la littérature, au vu de ce livre qui vous tient à cœur, elle peut aussi peut-être remplir cette fonction, celle d'un acte qui, dans l'écriture, permettrait à l'auteur de s'expliquer des choses qu'il n'arrive pas à comprendre?
Oui, oui, je crois que c'est la beauté de la littérature. Il faudrait être vraiment... faudrait avoir perdu toutes ces illusions et tout espoir en la littérature pour imaginer qu'il n'y a pas ça dans le fait d'écrire. Et je trouve que David Vann l'exprime très bien, déjà dans son écriture et dans la façon dont il parle de l'écriture. Il a dit lui-même, ce roman-là a été une façon pour lui, c'était une vraie catharsis, c'était une façon d'essayer de comprendre le geste de son père. Et pour lui, écrire, c'est de l'ordre de l'intime. C'est exposer une intimité, une autre forme de fragilité, tout en embarquant le lecteur là-dedans. Donc oui, pour moi, la littérature, c'est aussi ça.
Mm. Et puis, c'est une vraie expérience. Je pense que si nous, on a une telle expérience de lecture en le lisant, c'est que lui, il a une expérience d'écriture. Vous me racontiez juste avant l'émission que... Alors, on ne racontera pas ce qui se passe, mais quand même, lui non plus ne s'attendait pas à l'écrire. Voilà. Ça, c'est une remarque qui fait bien avancer le chemin biblique. Mais pour dire que ça a été une expérience... Pour lui, il ne savait pas avant ce qu'il allait forcément écrire à ce propos, finalement.
Oui, oui, mais ça, c'est caractéristique de sa façon d'écrire, puisque il avait expliqué qu'il partait d'un personnage qui avait un ou plusieurs problèmes, et ce personnage et ses problèmes étaient dans un lieu, un espace. Et il part de ça, il n'a pas de plan au niveau de la narration, enfin, ou de l'histoire, et il va explorer le lieu, l'espace. Et en explorant ça, il va apprendre à connaître son personnage et il va voir où l'histoire l'emmène. Et en l'occurrence, pour celui-là, ça a été vraiment une surprise énorme pour lui aussi de voir où est-ce que ces personnages l'ont emmené. Et ça, je trouve que c'est magnifique qu'il y ait encore des choses comme ça en littérature.
Oui, en effet, c'est un témoignage assez extraordinaire de notre auteur. J'avais une autre question à la traductrice que vous êtes. Je n'avais pas les moyens de lire ce livre en anglais, mais est-ce que l'expérience a été différente et est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser encore plus quel est le style de David Vann, vu que vous l'avez lu dans sa propre langue, ou est-ce que c'est une question un peu trop difficile?
Non, c'est pas difficile, mais c'est toujours très compliqué de parler du style de l'auteur. Est-ce que c'est passé dans la traduction? Je trouve que oui, dans l'ensemble, on retrouve ce côté sec, épuré, quelque chose qui va droit au but. On le retrouve dans la traduction. J'aime beaucoup que Laura Derajinski ait pris le parti avec l'éditeur Gelmeister de ne pas rajouter, par exemple, les guillemets pour indiquer le discours direct, ce que ne fait pas David Vann. Il a emprunté ça à McCarthy, notamment à Cormac McCarthy. Oui, je trouve que dans l'ensemble, c'est une même lecture viscérale, quelque chose de froid et en même temps d'extrêmement brûlant, parce que ça touche vraiment à des choses essentielles et universelles, des thématiques comme ça.
Vous nous disiez un petit peu avant de commencer cette émission, ça me fait penser à ça, que vous trouviez ce livre solaire. Pourquoi?
Alors, solaire...
Glacial, solaire, je m'y perds.
L'auteur. Je trouve que Vann est solaire. C'est très déstabilisant de le voir en vrai, de le voir parler de son travail. C'est quelqu'un de très lumineux et on le voit rire tout le temps. Et on dit, mais comment quelqu'un comme ça peut écrire des textes pareils, qui vont vraiment au fond des choses. C'est vraiment la noirceur humaine souvent mise en scène. Et en même temps, je trouve que ça peut s'appliquer à son écriture aussi, puisqu'il y a quelque chose de solaire dans le fait de mettre à jour tout ça, les ombres comme les parts d'ombre comme les parts de lumière de l'être. Et puis ça brûle et ça réchauffe aussi. C'est dangereux et exaltant à la fois.
Ouais, on revient à l'inconfort de lecture. C'est vraiment ça, c'est une vraie expérience.
Moi, j'ai une question à la traductrice, à laquelle je suis en train de penser. Vous dites David Vann, c'est un des auteurs qui vous tient à cœur, vraiment. Est-ce qu'en tant que traductrice, est-ce qu'on aurait envie de s'y frotter ?
Ah oui,
oui.
Je trouve que sa traductrice Laura Derajinski est très chanceuse. On rencontre peu souvent un auteur avec un style aussi particulier à traduire. Ça doit être un régal. Alors un régal doux amer, puisque c'est toujours difficile, c'est toujours une bataille quand on traduit, mais c'est aussi, encore une fois, exaltant de pouvoir traduire quelque chose comme David Vann.
Et du coup, c'est un auteur que vous suivez depuis Sequoia Island.
Oui, là, c'est bon, je suis fan.
Le livre de Frog.
Alors, il est peut-être temps de passer à notre rubrique finale. L'histoire éditoriale de Sequoia Island, on l'a dit, met en valeur la qualité des libraires indépendants français. Et puis, c'est un peu ce que nous faisons à chaque fois en clôture d'émission. Erika, je crois que tu t'es baladée entre la plaine et le cours Julien, que tu es passée à la librairie Histoire de l'Œil.
Voilà, c'est ça. Je suis allée faire un petit tour ce matin à cette librairie-galerie située juste quelques minutes du cours Julien, rue Fontanges. Donc une jolie librairie qui a ouvert ses portes il y a maintenant presque 10 ans et qui se veut généraliste avec tout de même une petite spécialisation en art et littérature contemporaine ainsi qu'en littérature jeunesse. Audrey, ça devrait vous parler. J'ai ensuite demandé conseil, comme le veut la longue tradition du livre de Frog, à l'une des libraires qui a donc eu la gentillesse de me conseiller 3 romans et une revue dont je vais vous toucher quelques mots très rapidement. Enfin, très rapidement, c'est encore à voir. Mais donc, pour commencer, Cécile, notre libraire du jour, nous a parlé du premier roman d'un jeune auteur anglais, Benjamin Wood, qui s'appelle Le complexe d'Eden Belvedere, aux éditions Zulma. Un livre qui nous plonge donc dans le Cambridge universitaire contemporain. Un jeune homme, au détour d'une rue, entre dans une église, attiré et fasciné par la musique d'une orgue. Il fait alors la connaissance du musicien, Eden Belvedere, ainsi que de sa sœur. Et il pénètre peu à peu dans ce monde qui n'est pas le sien. Et découvre petit à petit les expériences et les idées assez particulières de cet organiste, donc Eden Belvedere, sur la musique et plus particulièrement sur le pouvoir hypnotique que celle-ci peut exercer. Alors quand le héros y voit que ce musicien un peu à part, très grandiloquent, solitaire et même méprisant, s'approche de plus en plus de la folie, il entre en contact avec un grand spécialiste des troubles de la personnalité. Oui, c'est une intrigue assez, assez originale, c'est pour ça que je l'explique. Donc un spécialiste des troubles de la personnalité. Et les deux personnages se rencontrent alors et vont mener une sorte de partie d'échecs, où ils vont à la fois entrer dans le jeu de l'autre et en même temps vouloir démontrer qu'ils ont raison tous deux au péril de leur vie. Donc quelque chose d'assez machiavélique. Et à travers cette intrigue originale, donc une intrigue qui multiplie les retournements de situation, avec en même temps au niveau de l'écriture et de la traduction, quelque chose de très fluide et de très riche, avec un très grand plaisir de lecture. Donc c'est vrai que ça donne pas mal envie, et puis ça a l'air, c'est vrai, d'être quelque chose d'assez original. Voilà. Deuxième ouvrage conseillé par notre libraire du mois, Debout payé de Gauze, aux éditions Nouvelles Attila. Alors vous faites les gros yeux. Ah, Audrey, vous l'avez lu ?
Oui, c'est mon dernier coup de cœur.
Ah, ben voilà. Donc ce n'est pas seulement votre coup de cœur, puisque en fait, il paraît que c'est le gros succès de la rentrée. Un vrai raz-de-marée nous a-t-on dit. Donc à tel point qu'à un moment, il était difficile de le trouver en librairie. Donc Debout payé, c'est en fait la manière dont les Ivoiriens appellent les vigiles, puisque on est debout pour être payé. Donc debout payé. Le livre présente en fait trois parties historiques sur l'immigration ivoirienne en France et en particulier à Paris des années 60 à nos jours. Et le tout est ponctué de petites pensées et anecdotes racontées par un vigile qui exerce son métier dans de grandes enseignes parisiennes. Donc un livre dont on nous a dit qu'il était très drôle, percutant et pertinent, c'est très positif, hein, où l'on rit beaucoup, mais aussi où l'on réfléchit, à travers les yeux de ce vigile immigré ivoirien, à la fois donc sur la société marchande et sur la place de chacun à l'intérieur de celle-ci. Donc voilà, Audrey, vous êtes convaincue?
Oui. Oui.
Très bien, nous irons voir ça. Donc. Le petit soleil de la rentrée, selon les dires de Cécile, reconnu de Guy Robert. Guy Robert, qui est un auteur marseillais, qui, dans de petits paragraphes ou salves de 3-4 lignes seulement, toujours très drôle et bien senti, répertorie tous les petits moments où il a rencontré des personnalités dans sa vie. Et il en profite aussi pour parler de son nom à lui, Guy Robert, l'homonyme de centaines de personnes. Un livre dont que Cécile nous a dit réjouissant et sympathique, Le Petit Soleil donc. Enfin, pour finir, on vous parle d'une toute jeune revue biannuelle, Citrus, aux éditions Lagrume. Alors Citrus, c'est une revue de société qui vient tout juste de sortir son deuxième numéro, consacré aux faits divers, après un premier numéro dédié au football, on ne s'arrête plus. Et Elodie, on en avait déjà parlé le mois dernier avec un roman, cette fois-ci c'est une revue. Le thème est illustré, donc le thème dans ce deuxième numéro, c'est bien les faits divers. Donc le thème est illustré sous de nombreux angles par des articles, des nouvelles, des essais, des textes de chercheurs ou d'auteurs, des BD, et le tout est illustré par, pour citer Cécile, la fine fleur de l'illustration et du graphisme contemporain. Alors pour ceux qui connaissent un peu mieux que moi, dans le numéro 1 par exemple, il paraît que c'est Gianpaolo Pani, artiste, illustrateur jeunesse et de presse, auteur de livres d'art qui a illustré un grand nombre d'articles de cette revue. Donc voilà, quelque chose de nouveau à découvrir avec, après un numéro consacré au football et aux faits divers, un prochain qui est déjà annoncé pour le printemps et qui sera consacré au sexe, c'est dit. Voilà.
Bon, merci Erika pour ces conseils. Je crois que nos auditeurs ont de quoi lire au moins jusqu'au mois prochain. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Cette émission touche à sa fin. Merci infiniment Audrey d'être venue au Livre de Frog.
Merci à vous deux de m'avoir invitée.
Et puis on renvoie bien sûr aux éditions Asphalte, à vos traductions. Au mois prochain Erika.
Eh ben,
à très bientôt.
Non. Oui, mais à bientôt.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre de Frog.